Felaga. Plus tard, je vous donnerai lecture d'un autre texte que j'ai commis lors du second mémorial de François Fanon en Martinique.
Merci Pierre Lézot. On va passer maintenant à Comaguère Bernard Genet. Moi, je l'appelle Comaguère, c'est parce que je l'ai connu comme ça, qui a une émission sur Radio Galère depuis bien longtemps. Et Bernard, on te laisse prendre la parole maintenant.
Je vais essayer de parler dans ce micro si on m'entend. Non, c'est dit. C'est bon, si je me mets comme ça. Voilà, merci. Voilà, j'ai nommé mon propos « Décoloniser l'esprit ». Et là, j'ai fait œuvre de pirate, puisque j'ai repris le titre d'un livre qui a été donc écrit par un écrivain kényan qui s'appelle Ngugi Wa Thiong'o, qui est moins connu que Frantz Fanon, mais dont on peut considérer qu'ils n'ont pas un héritier, car il n'y a pas d'héritier de Fanon. Il y a des gens qui, comme le disait hier Hassan Mezi, il y a des gens qui utilisent la boîte à outils Fanon pour faire la révolution. C'est ça. Et donc, tout le monde peut ramasser cette boîte à outils et dire, dans la situation où je suis, dans le pays où je suis, comment je vais faire pour utiliser cette boîte à outils et dans quel sens? Et c'est en ça que le témoignage de Ngugi Wa Thiong'o est très, très intéressant, parce qu'il se situe dans un système totalement différent et très opposé. Et puis, il va vivre 87 ans. Il est mort au mois de mai 2025. Bon. Il était né 13 ans après Frantz Fanon. Comment faire pour rester jusqu'à 87 ans, j'allais dire, comme l'autre, mais ce n'est pas une bonne réflexion, droit dans ses bottes, idéologique, vous m'avez compris. Comment faire? Eh bien, effectivement, il faut effectivement tenir la distance très, très longtemps et utiliser l'outil qu'on a. Quel outil avait-il? Alors, il n'avait pas grand-chose, si ce n'est que c'était un excellent écrivain. Et donc, il va faire de sa vie militante, donc de 20 ans à 87 ans, l'usage, le meilleur usage possible de sa plume, de son usage littéraire, pour défendre l'émancipation de son pays. Son pays, alors vous connaissez tous le nom, mais vous connaissez le nom, j'imagine, parce que alors, j'ai fait l'expérience, vous allez à l'Alcazar, vous tapez Kenya livre, les 10 premières occurrences, c'est des guides touristiques. Il n'y a quasiment que ça. Bon, donc c'est le royaume, c'est le royaume des safaris, le bon Kenya, le Kilimanjaro qui est en Tanzanie, etc. Bon, tout ça. Bon, autrement, il n'y a rien. Alors, si décoloniser l'esprit, il y est. Mais c'est le seul livre. C'est-à-dire que ce monsieur qui, depuis l'âge de 20 ans, écrit en permanence, tout le temps, des essais, des pièces de théâtre, des essais comme celui-là, ce monsieur est très, très peu traduit en français. Et ça introduit une idée sur la décolonisation, plutôt sur les décolonisations. Et c'est là-dessus que je voulais insister. C'est-à-dire que nous sommes, d'une certaine façon, colonisés par notre université française, par nos écrivains français, parce que nous ignorons la colonisation britannique. Enfin, presque totalement la colonisation britannique, qui a été particulière, particulièrement sauvage, je vais y revenir, mais au fond, elle ne fait pas partie de l'académisme français. Il n'y a pas beaucoup de thèses de doctorat, il n'y a pas beaucoup de patrons de thèses sur le Kenya, sur la Tanzanie, il y a très très peu de choses. Et donc, en fait, pour nous, c'est étranger. Alors, on colle quelques noms comme ça au passage, mais pas plus. Et donc, il faut bien se pénétrer qu'il y a eu toute une histoire de la colonisation britannique et que nous ne la connaissons quasiment pas. C'est-à-dire, ça ne fait pas partie de l'acquis des militants français. Or, pourtant, ça en fait partie. Et il se reproduit dans le domaine académique, dans le domaine de la pensée, dans le domaine universitaire, ce qui s'est passé en 1885 au Congrès de Berlin. C'est-à-dire que l'Afrique a été divisée en plusieurs zones linguistiques, chacune correspondant à une zone de colonisation européenne. Et donc, on a effectivement ce que je disais pour l'anglais, pour le Kenya, on peut dire exactement la même chose pour la décolonisation portugaise. C'est entre les mains des universitaires portugais, enfin, éventuellement latino-américains. Et donc, en fait, mettez ça dans votre tête, nous sommes déjà colonisés de ce fait-là. On ignore une bonne partie des conditions de la colonisation africaine, parce qu'il y en a deux moitiés, la colonisation portugaise, la colonisation anglaise, subsidiairement la colonisation espagnole qui a été très petite, un petit peu la colonisation allemande qui a été brève, puisque vous savez qu'elle s'est achevée en 1918, Donc tout ça, c'est plusieurs colonisations, mais en fait, c'est les pieds des Européens et les machettes des Européens, pas les machettes, les fusils des Européens, qui sont en fait intégrés dans ce découpage. Et pour les Africains, en fait, il n'a pas de sens. Et c'est ça le travail constant que va faire cet auteur en disant, ben, effectivement, il faut penser l'Afrique, mais je le fais à partir des conditions qui sont dans mon pays. Alors qu'est-ce que c'est mon pays ? Il est né là, c'est le Kenya, vous connaissez le nom, c'est un pays de taille moyenne, qui comptait au moment de l'indépendance 10 millions d'habitants, qui en compte 58 aujourd'hui. Donc, bah, grosse expansion démographique. Et ce Kenya est habité par toute une série de populations, des ethnies, comme on dit, dont on va parler, qui s'appelle l'ethnie Kikuyu. Kikuyu, c'est c'est l'ethnie dans laquelle Ndugi wa Thiong'o est né. Alors elle est importante puisqu'elle a toujours occupé, et c'est encore vrai, c'est assez paradoxalement, 20% en 1960 et toujours 20% aujourd'hui. Mais ce qu'il faut savoir, que cette ethnie a fait l'objet d'une tentative d'élimination totale. C'est-à-dire qu'il y a eu un projet génocidaire des gouvernants africains, kényans, contre les Kikuyu, pour les éliminer de la surface du Kenya. Et c'est là que son apport est très très intéressant, c'est-à-dire pratique génocidaire, poussée jusqu'au bout. Et je vais expliquer ce qui se passe. Vous avez peut-être tous entendu parler, parce que ça reste un petit peu dans nos mémoires, de la révolte des Mao Mao. Alors ces Mao Mao, ça s'écrit M-A-U-M-A-U, pas Mao Mao, je pense qu'il n'y avait pas de filiation chinoise. Hein. Bon. Et on ne sait pas très exactement ce que ça veut dire, d'ailleurs Mao Mao, dans la langue Kikuyu. Bon. Peu importe. Il faut savoir qu'en 1952, les Kikuyu se révoltent contre la condition coloniale. On est en 1952. C'est une des premières révolutions africaines spontanées. Alors, elle en a le caractère africain et elle a en même temps ses limites. C'est-à-dire, c'est une ethnie d'un pays qui décide que ça suffit le régime colonial. Pourquoi elle ? Pourquoi elle ? Et là, je fais le parallèle avec la Palestine. Parce que c'est une ethnie paysanne à qui le colonisateur a pris la terre. Et c'est là le fond de la bataille. Ils sont arrivés, les colons, ils ne sont pas très nombreux, on a compté 30 000 colons britanniques, ils nous ont pris nos terres, nous étions des petits exploitants, nous sommes devenus des esclaves ou des ouvriers agricoles dans le pays. Voilà. C'est ça le départ de la révolte. Et donc ça prend une forme d'une espèce de guérilla de maquis, c'est-à-dire chaque village a dans la forêt juste à côté des guérilleros qui vont attaquer les propriétés des colons britanniques.
Déjà la guérilla.
Et ça sera, la limite militaire sera là, c'est-à-dire que c'est une guérilla village par village. Chaque village a son maquis, mais ça fait penser aux glières, ça fait penser à des maquis tels que nous avons vécu il n'y a pas si longtemps ici. C'est-à-dire, c'est les gens du village, pour une partie, sont dans le maquis, et ils viennent le soir dans le village, on leur donne à manger, on leur donne à boire, et ils repartent, etc. Bon, c'est exactement comme ça que ça se passe. Il se trouve que ça se passe dans un pays auquel personne ne s'intéresse, c'est-à-dire qu'en fait, on va les laisser, il n'y aura aucune aide, ils vont mourir dans leur guérilla, alors militairement, avec l'armée britannique qui intervient, qui se fabrique une quantité, j'appelle ça des harkis pour que tout le monde comprenne, Kenya, pour dire on les élimine. Alors la guerre concrète entre cette guérilla, cette petite population et l'armée britannique va durer 2-3 ans, pas plus. Ça, c'est très important à voir. On peut considérer qu'après, vers 57-58, la guérilla est perdue, c'est-à-dire qu'ils ont perdu beaucoup d'hommes. On dit, voilà, un massacre, 30-40 000 hommes. Mais ce n'est pas tout. Ce n'est pas tout. Et c'est là qu'intervient quelque chose de très, très important. C'est que, simultanément, le gouvernement britannique a mis en place un système de camps de concentration de Kikuyu. Camps de concentration. Toute une série, alors pas un seul, mais plusieurs camps de concentration dans lesquels ils vont appliquer des techniques qui seront appliquées par d'autres plus tard. Vous m'avez compris, je ne fais pas un dessin. Hein, et donc, ils vont consister à éliminer, de faire le génocidaire des Tutsis, des Kikuyu, pardon. Ça veut dire que ça aurait pu rester comme ça, parce qu'ils ne se sont évidemment pas vantés. Il n'y a pas eu de reportage à la télévision, il n'y a rien du tout. Et tout à fait par hasard, il y a une jeune fille états-unienne qui, de classe moyenne, fait un doctorat à Harvard et elle va découvrir la réalité. Alors, par bribes, des petits morceaux, mais il y a eu des camps de concentration. On a tenté d'éliminer totalement la population Kikuyu. Comment ça s'est passé ? Alors, elle écrit un livre là-dessus avec les quelques sources qu'elle a trouvées. Et ce livre a le prix Pulitzer. c'est-à-dire le plus grand prix pour un... Alors, c'est pas un roman, puisqu'en fait, c'est une espèce de... C'est un mémoire de fin d'études, une thèse de doctorat, etc. Avec un tout petit apport de moyens. Et il se trouve que ce prix Pulitzer, alors, va être contré, bien entendu, par les intellectuels britanniques et états-uniens spécialisés. Mais c'est pas vrai, parce qu'on trouve toujours dans l'université des gens qui vont du côté du Manche. Ça, vous l'avez compris, on le connaît, hein. Alors, ça, son bouquin, je vais vous le dire. Ça s'appelle le Goulag du Kenya. Hein, c'est un titre. Et le bouquin sort en... Attendez, je n'ai pas la date. Autour de 87-88. Hein, voilà. Donc, contestation dans le milieu universitaire académique classique. Mais non, elle dit des sottises et tout. Le problème, c'est qu'il y a des gens au Kenya qui se souviennent de ça. Et puis elle va voir. Elle dit, moi, j'ai déjà trouvé ça, tous ces témoignages, tous ces... Je vais aller voir de plus près. Et elle va en pays Kikuyu et elle interroge les familles. Et c'est là qu'elle s'aperçoit que ça a vraiment eu lieu, la tentative. Et elle arrive après à énoncer des chiffres en disant, il y a eu au moins 300 000 victimes. C'est-à-dire, et elle voit, elle rencontre un monsieur qui lui dit, moi, on m'a castré dans ce village. D'autres femmes qui disent, on m'a violé, hein. Tout ça ressort. Et puis, petit à petit, donc, cette implication des Kikuyu, de cette population castrée, des survivants, amène à dire, il faut aller voir un tel, il faut aller voir ici, etc. Et d'autres archives s'ouvrent, et depuis, on est face à une réalité incontestable. Les camps de concentration Kikuyu ont existé. Ça a été un des très beaux travaux, je mets le guillemet qu'il faut, bien entendu, de la colonisation britannique. Voilà ce qu'il faut comprendre dans ce Kenya et dans cette histoire de ce personnage. Et puis, à un moment donné, une autre conversion va avoir lieu, qui est très, très importante, c'est la question de la langue. Parce que ce monsieur, bien sûr, il a fait des études donc brillantes, il parle bien l'anglais, il a eu un diplôme à l'université de Leeds, puis un autre, il a fait des cours à Harvard et tout, c'est un brillant écrivain. Et puis, à un moment donné, il se dit, mais au fond, j'écris en anglais, et qui lit mes travaux ? Et la réponse est évidente, c'est-à-dire, c'est pas les gens de mon peuple, c'est pas le paysan Kikuyu, c'est pas l'ouvrier des usines de Nairobi. Je suis lu que par des étrangers, et pour une partie qui sont même hostiles ou indifférents à la situation des Kikuyu. Donc, il y a un moment donné, c'est une espèce, c'est quasiment le chemin de Damas, j'allais dire, hein, de Nuzi Kwakyogo. Il faut que j'écrive en Kikuyu absolument. Et il va se mettre à écrire en Kikuyu. Il va se mettre à écrire des piécettes pour les faire jouer dans les villages, il va se mettre à écrire des petits récits, il va se mettre même à écrire des livres théoriques en Kikuyu, qui seront bien sûr après traduits en anglais. Mais il a dit, là, je me mets à marcher au pas de mon peuple, ce que j'avais oublié de faire. Et ça, c'est une leçon très, très importante. Là, je me décolonise vraiment, d'où le titre de son livre. Je me décolonise parce que je parle ma langue, je parle avec mon peuple. Je ne fais pas ça pour faire des chiffres d'édition à Harvard ou ici ou là. Et donc, il va aller dans ce sens-là. Le problème, et c'est très intéressant pour la suite des événements, c'est que le gouvernement kényan ne supporte pas ce personnage. Parce que ce personnage lui rapporte qu'il y a des intérêts de classe, des intérêts paysans, des intérêts ouvriers. Et donc, ce n'est pas du tout ça qu'on souhaite de lui. Et ce gouvernement kényan, il est tenu par qui ? Et là, on retombe sur un thème typiquement fanonien. Il est tenu... y compris sous les deux premières présidences qui ont duré 2 fois 15 ans, celle de Jomo Kenyatta, dont vous avez peut-être entendu le nom, et le successeur, donc Daniel Arap Moi. Pendant 30 ans, on a deux dictateurs qui sont des Kikuyu, mais qui sont passés du côté du Manche. Et ça, j'y pensais hier en regardant les images d'Oufouette Boigny dans le film d'Assane, mais il est exactement là-dessus. Ils sont passés de l'autre côté, et il les considère, dans les pièces qu'il a écrites, comme des traîtres. C'est-à-dire, c'est des Kikuyu qu'on trahit pour travailler avec le colonisateur. Et donc, c'est des dangereux publics, puis c'est des traîtres à la nation Kikuyu. Et donc, les régimes donc, de M. Kenyatta Jomo et de M. Daniel Arap Moi font tout pour lui compliquer la vie, et y compris, il sera victime d'une tentative d'assassinat par Arap Moi au Zimbabwe, où il était venu faire une conférence. On enverra des gens chez lui pour violer sa femme sous ses yeux. C'est ça la réaction du colonisateur quand il est poussé dans ses retranchements. C'est-à-dire, un colonisateur poussé dans ses retranchements, c'est une ordure. Voilà, je le dis clairement parce que ça me vient du fond du cœur. Et alors, la suite des événements, c'est qu'il aura des difficultés et finalement, il ne va pas pouvoir vivre au Kenya. Et il va continuer une vie donc d'homme de lettres, en souscrivant ici et là, en faisant des conférences, etc., en publiant autant qu'il peut, hein, Anki Kuyu, traduit ensuite en anglais et quelquefois aussi en anglais, pour arriver à la fin de ses jours en n'ayant jamais lâché l'affaire. C'est-à-dire qu'il s'est toujours battu jusqu'à son 87e anniversaire pour dire « Je n'ai jamais trahi mon peuple et je n'ai jamais trahi les ouvriers et les paysans kikuyu de mon ethnie ». Ça, c'est une leçon. Alors, c'est du Fanon, mais c'est, voilà, Fanon est un météore. Voilà, c'est un félaga. Hein. Fanon, c'est un météore et lui, c'est un opiniâtre, un paysan qui toujours gratte sa terre, continue, je ne lâche rien parce que je suis ancré à cette terre. Et c'est en ça que je le trouve très palestinien, complètement palestinien. Hein. Et on a dans le film d'Hassan, on voit effectivement un témoignage d'une palestinienne qui explique très très bien ça. Où on en est aujourd'hui, et je vais finir là-dessus pour vous faire un portrait très très vif du Kenya. Il y a aujourd'hui à la tête du Kenya un monsieur qui s'appelle Monsieur Ruto, qui a été vice-président et qui est devenu président quand le président a démissionné. Ce Monsieur Ruto, il a deux particularités. Il essaye de prendre toutes les terres qu'il peut au nom du gouvernement, c'est-à-dire qu'il poursuit l'exploitation du paysan Kikuyu et même de tout le reste du Kenya, c'est-à-dire que chaque fois qu'il y a un domaine qui peut être vendu, une terre en héritage et tout, il prend tout. Ce monsieur est devenu président du Kenya, plus grand propriétaire foncier du Kenya. Un latifundière, président de la République. Alors pourquoi un latifundière à cet endroit-là? Parce qu'il faut savoir, je ne l'ai pas dit, mais qu'en fait le Kenya a cette particularité de ne pas avoir de ressources minières particulières. Il n'y a pas d'or, il n'y a pas d'uranium, il n'y a rien d'intéressant. Il n'y a que des productions agricoles. Le Kenya produit du thé en grande quantité. Le thé britannique, il fait sa fortune là. Produit du café subsidiairement, c'est tout. Et donc, qui tient la terre tient l'économie du Kenya. Et bien entendu, le paysan Kikuyu ou des autres ethnies, il est là pour gratter la terre du président de la République avant d'avoir gratté la terre des colons anglais. Ce monsieur Ruto a eu quand même des difficultés parce qu'à un moment donné, à un moment de changement du président, je crois que c'était en 2007, il y a eu des émeutes, il y a quand même eu 1000 morts, etc. Et il y a des plaintes qui ont été portées contre lui à la Cour pénale internationale. Eh bien, ce monsieur a eu deux non-lieux à la Cour pénale internationale. Deux non-lieux, oui, deux non-lieux. Alors, il n'a pas été acquitté, hein, c'est bien un non-lieu. Manque d'informations, tiens, comme par hasard. Qui est le procureur de la Cour pénale internationale? Dites-moi un nom. Il s'appelle M. Karim Khan. Il est d'origine indienne, son nom l'explique. Il a été le conseiller juridique de Sa Majesté Elisabeth II, conseiller de la couronne. Et donc, ça lui a valu de devenir procureur de la Cour pénale internationale. Ce monsieur, donc, très gentiment, a dit « Mais non, il n'y a pas de souci, monsieur Ruto. Ouais, il n'y a pas de preuve, on ne va pas fouiller le dossier. Allez, on n'en parle plus, on classe. » Voilà monsieur Ruto tel que c'est. Voilà le Kenya tel qu'il est aujourd'hui. Et je vais finir sur une dernière chose. L'ONU a eu besoin d'envoyer une mission pour faire la paix à Haïti. Vous voyez qu'à Haïti, les pauvres, enfin, on n'a pas versé une larme qu'on aurait pu sur Haïti, mais Haïti est le pays le plus martyrisé, le pays noir le plus martyrisé de l'histoire de la colonisation, puisque ça n'a pas arrêté depuis 1780. Bon, tout ça est connu. Mais il se trouve qu'on a besoin de faire mater, je vais employer des mots vulgaires, mater les Noirs par d'autres Noirs, parce que c'est ça le but du jeu. Hein. On ne veut pas envoyer des soldats américains, etc. Ils sont trop chers, c'est pas bien, ils ne savent pas faire. On a envoyé des Brésiliens, ça s'est mal passé. Donc on a cherché quel était le Noir qui allait pouvoir venir mater les Haïtiens aujourd'hui. Et qui on a trouvé? On a téléphoné à M. Ruto. Ça, c'était pas Trump, c'était Biden. Et il a dit, allez, envoie-moi des gendarmes. Et donc, il y a aujourd'hui 800 gendarmes kényans qui sont là pour encadrer la population haïtienne qui, paraît-il, est en mauvais état, aux mains des bandits, etc. Donc voilà à quoi sert M. Ruto. Dernière chose, M. Ruto sert dans la politique de Trump pour dire du mal de l'Afrique du Sud. Je finis. Hein. Vous savez que M. Trump a décidé de dire du mal de l'Afrique du Sud, puisque vous savez ce qu'il ose dire. L'Afrique du Sud fait du mal aux blancs. Afrique du Sud. Hein. Voilà. Voilà. Alors ça, c'est le résultat de la plainte portée à la Cour internationale de justice. C'est le résultat du mandat d'arrêt contre Netanyahou et tout. Donc pour Trump, l'Afrique du Sud est à démolir par tous les moyens possibles. Et quel gouvernement africain va-t-il utiliser ? Le gouvernement de M. Ruto. Voilà, vous avez essayé. On a donc un fasciste africain qui est entre les mains de l'impérialisme dominant. Et c'est la façon de dire, ben, monsieur Ngozi Ouattuango avait raison de se battre et je pense que ses enfants, ses successeurs auront raison de continuer avec le plus d'acharnement possible et égal au sien. Voilà ce que je voulais dire.
Merci. Merci beaucoup pour vos interventions à tous les trois. Et j'aimerais juste préciser... que maintenant nous allons rentrer directement dans les thématiques du débat et on aimerait bien avec Jojo commencer par l'idée de décoloniser les esprits et aussi penser la colonisation à l'échelle nationale et ensuite à l'échelle internationale et puis aussi penser l'inversion des choses et l'usage des mots, la force de ces mots et comment est-ce que l'impérialisme, le colonisateur, le dominant, commence à prendre en main tous les rouages, tous les éléments du système pour empêcher toute forme de lutte, quelle qu'elle soit, qu'elle soit médiatique, qu'elle soit associative, qu'elle soit partisane. Voilà. Et première question que j'aimerais lancer, c'est dans décoloniser les esprits. Ah oui, pardon, avant de lancer le débat, on avait aussi... alors, comme je ne l'ai pas physiquement en face, hein, je suis désolée, il y a Victor Permal, qui est ici en live en Martinique, et on le voit sur l'écran. Alors, c'est qui ? C'est Raphaël Constant ?
Je n'entends plus rien.
Alors, je ne l'ai jamais vu physiquement. Alors, est-ce que vous pouvez vous présenter de là où vous êtes, en Martinique, et présenter le cercle Frantz Fanon, s'il vous plaît ?
Bonjour, camarades. Je m'appelle Raphaël Constant.
Constant.
Je suis président du cercle Frantz Fanon de la Martinique. Je suis très heureux de pouvoir intervenir auprès de vous, même s'il aurait été préférable que nous puissions nous déplacer pour vous rencontrer physiquement. Je tiens à vous dire que il me paraît important qu'en Martinique, qu'à Marseille et ailleurs, on commémore, on se rappelle, on discute les idées de Frantz Fanon. Le 20 juillet 1925, à quelques centaines de mètres de l'endroit où je suis, Frantz Fanon, en tant qu'enfant d'une famille petite bourgeoise martiniquaise, naissait dans un lieu qu'on appelait l'hôpital colonial. C'est un signe, peut-être. Et nous savons que le 6 décembre 1961, dans le Maryland, c'est un autre signe, peut-être, il décédait d'une leucémie foudroyante. Il n'aura donc vécu que 36 ans, mais 36 ans d'une vie fulgurante, d'une vie qui est marquée par des ruptures, d'une vie qui est marquée par des choix extrêmement courageux, une vie qui est marquée par une réelle et profonde osmose entre ce qu'il pensait et ce qu'il faisait. La première rupture de France annonce, c'est quand, en 1943, il a 18 ans, c'est-à-dire c'est à cette époque, il n'est même pas majeur, il fait le choix qui est extrêmement minoritaire dans la Martinique de l'époque, de faire ce qu'on appelle la dissidence, c'est-à-dire de quitter le pays Douillet, la famille Douillette dans laquelle il vivait, pour prendre un gommier, c'est-à-dire une frêle embarcation, et rejoindre la Dominique, qui est une île qui est à côté de la Martinique, qui se trouve à son nord. Dans cette île, sous domination britannique, aujourd'hui un pays indépendant. Il espérait ainsi rejoindre les forces françaises libres. En fait, quand, comme vous le savez, il va revenir en Martinique pour finalement s'engager dans l'armée française, puisque le peuple martiniquais s'est révolté en juin 1943 contre le représentant du maréchal Pétain et a déchoupé le personnage qu'on appelle l'amiral Robert. Mais ce qui est important, c'est de bien voir c'est une rupture, pourquoi non, de faire ce choix de rejoindre le combat pour la liberté. Il faut dire que dans cette rupture, il y aura une autre rupture, puisque à la suite de la mort de la mère de François Fanon, en 1980, on va retrouver dans ses affaires une lettre de François Fanon, où François Fanon disait qu'il s'était trompé, non pas d'être parti pour se battre pour la liberté, mais d'être parti pour pouvoir lutter pour des fermiers qui se foutaient de la liberté. En tout cas, Fanon va quitter la France et revenir en Martinique, essentiellement pour passer le bac, parce qu'il est allé faire la guerre sans avoir passé le bac, et il va obtenir le bac. Il va rester un peu de temps en Martinique, puis il va faire le choix de, il n'y a pas d'alternative d'ailleurs, de repartir en France pour faire ses études. Notons quand même la rupture que représente pour Fanon de faire le choix de faire ses études à Lyon. Lyon n'est pas traditionnellement une ville universitaire où la communauté antillaise, martiniquaise, qui en général était plutôt Bordeaux, Montpellier ou Paris. Et Fanon veut lui rencontrer une autre situation. Il faut dire d'ailleurs que c'est à Lyon qu'il va avoir son deuxième contact avec la communauté algérienne, qui aura déjà eu l'occasion de résider en Algérie, en Tunisie, avant de participer à la conquête du sud de la France avec lui. Or, que ça soit en 1943 et 1944, ou que ça soit à un moment donné, il va rencontrer la communauté algérienne à Lyon, il va être frappé par le racisme dont est victime cette communauté. Et c'est un élément qui va intervenir dans son choix futur à un moment donné de rejoindre l'Algérie. En tout cas, il fait ses études médicales sur place, à Lyon. Et à l'issue de ses études médicales, il va venir passer quelques mois en Martinique, où il va exercer dans la ville du Saint. Mais il va décider rapidement de quitter la Martinique parce qu'il ne s'y retrouve pas, il ne retrouve pas ce qu'il a. Il a eu cette phrase qui était extrêmement critique, mais enfin, c'est ce qu'on fait. Il y a un problème.
On va tout simplement le micro, il faudrait que tu le places devant la bouche si c'est possible. Parce que ça coupe. Est-ce que c'est possible de couper, d'approcher le micro de la bouche parce qu'on entend mal, ça coupe par moment le micro.
Le problème, c'est que je n'ai pas de micro, c'est mon ordinateur.
C'est pas le micro qui est accroché là, qui est le long du fil des écouteurs. Et les écouteurs.
Il y a peut-être un micro accroché, mais les connaissances techniques sont extrêmement limitées.
On essaye? On peut essayer?
Là, ça va mieux?
Alors là, c'est mieux, oui, 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 oui. Merci.
Excusez-moi, puisque vous vous êtes, j'ai combien de temps?
Encore quelques minutes. Allez jusqu'au bout du propos.
J'ai pas entendu.
Encore quelques minutes, allez jusqu'au bout de votre propos, je disais.
10 minutes?
Oui.
D'accord, merci. Donc, je disais que Fanon va quitter la Martinique pour retourner en France. Et quand il va quitter la Martinique, il aura une forme à sa famille de dire qu'en Martinique, il y a beaucoup de pantalons, mais il y a peu d'hommes. C'est un peu machiste, mais c'était le sentiment qu'il n'y avait pas beaucoup de Martiniquais qui étaient prêts à se battre contre le fait colonial. En 1952, il reste encore une référence actuelle, en dépit des polémiques, sur le phénomène de l'aliénation, conséquence du fait colonial, et qui pose la problématique, au-delà de la couleur de peau, de la capacité colonisée à se positionner comme un être humain à l'égal de son dominateur. Fanon, c'est aussi le choix, c'est une autre rupture, d'aller faire sa première mission en tant que médecin hospitalier à Blida, en Algérie. Il est d'ailleurs assez extraordinaire qu'à l'occasion de ce 6e anniversaire, il y a eu 2 films qui ont été faits. Un par un Guadeloupéen qui s'appelle Barney, et un autre par un Algérien qui s'appelle Zaza. Et ces 2 films concentrent leur scénario sur la période de Fanon à Blida, avec cette capacité qu'il a eue à pouvoir remettre en cause les méthodes de soins de ce qu'on appelle l'école d'Alger, qui était un courant qui, à la base, considérait que l'Algérien avait la formation de cerveau qui était inférieure à ceux des cerveaux des Occidentaux. Ce que l'on sait surtout, c'est que pendant cette période, Fanon va rejoindre le combat de libération nationale du FLN algérien et va en devenir un membre actif.
C'est un monument d'unité, mais il faut bien comprendre que c'est un acte qui n'est pas conséquent. Fanon, à ce moment-là, il est fonctionnaire de l'État français. En cette qualité, il dirige un service à l'hôpital Guida. Là, il démissionne, c'est-à-dire que concrètement, les ponts avec l'État français. Et c'est intéressant à relire la conclusion quand il dit qu'il ne peut plus continuer à jouer la comédie et qu'il n'a comme recours que de démissionner, ce qui pose le problème de l'activité des fonctionnaires entre guillemets indigènes dans le cadre d'une situation coloniale. Le moment où vous savez que Fanon va passer quelque temps à Paris, entre autres à discuter avec Martinville, mais aussi avec des militants, y compris des militants marxistes, avant de rejoindre la où il va être, dans un premier temps médecin, avec la création d'un hôpital de jour, dans un hôpital tunisien en matière psychiatrique. C'était fait pour la première fois. En même temps, il va faire de rédaction du Moudaïd. Et, comme vous devez le savoir aussi, devenir ambassadeur en Sénégal pour le gouvernement de la République d'Algérie. Et particulièrement, il va en Canada. On va tenir un certain discours et prendre des contacts avec l'ensemble des mouvements. de l'Afrique. C'est-à-dire que c'est dans ce cadre qu'il aura eu l'occasion de publier en 57 deuxième ouvrage, qui est l'Afrique de l'Afrique algérienne, et de commencer en Tunisie l'écriture de son troisième ouvrage et dernier ouvrage, c'est Les Damnés de la Terre. Quand on lit Les Damnés de la Terre, on est en présence d'un homme qui a besoin rapidement de coucher sur le papier ses opinions. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de vitae dans Les Damnés de la Terre. Toutes ne sont pas développées, aucune complètement et totalement. On est en présence d'un homme qui sait que l'amour et qui veut laisser une expérience de sa vie qu'il a de l'avenir. Et dans Les Damnés de la Terre, Fanon pose des problèmes aussi importants que la question du développement de la révolution, du développement de la lutte, du rôle du lumpen prolétariat, du rôle du prolétariat, du rôle de la paysannerie, avec des questions qui sont encore pour beaucoup d'actualité et qui posent le problème que par la suite, nous avons connu dans les pays libérés, la question de la bourgeoisie nationale, la question de la rupture avec l'impérialisme, la question de savoir quelle classe sociale les bourgeoisies nationales et les indépendantes doivent défendre.
Alors,
ce livre, vous savez, il est paru à la fin du mois de novembre aux éditions Maspero à Paris. Et sa femme, Josie, aura l'occasion de lui montrer l'ouvrage juste quelques heures, sinon quelques jours, avant sa mort.
Alors, Raphaël, on va devoir...
Voici donc un parcours extrêmement fulgurant.
Raphaël, est-ce que tu nous entends? Est-ce que tu m'entends?
Pour terminer, je voudrais dire qu'aujourd'hui, en Martinique, nous avons cette année organisé la rencontre internationale autour des Damnés de la Terre, parce qu'il nous est paru que cet ouvrage fondamental nécessitait une réflexion. Et nous avons fait 5 jours de manifestation du 16 au 20 juillet. Et le 20 juillet, nous avons tenu symboliquement à l'Atrium, à la salle François Fanon, la journée d'hommage pour l'anniversaire de sa naissance des 100 ans.
Merci.
Fanon est encore aujourd'hui d'actualité en Martinique. C'est même l'objet d'un débat, c'est même l'objet de divergences, et c'est bien d'ailleurs, et c'est l'objet de polémiques. Ce qui n'est pas gênant pour les idées de François Fanon. Mais la Martinique est un pays aujourd'hui qui vit une situation colonisée, où il y a des gens qui estiment que c'est une colonie et qui se battent pour l'indépendance. Il y en a d'autres qui estiment que ce n'est pas une colonie et qui se battent pour des aménagements. Et il est évident que Fanon, au milieu de tout ça, c'est la réalité du combat pour la liberté.
C'est bon, merci. On a...
Je ne vous entends plus du tout parce que, étant donné que faut parler de téléphone, parce que j'ai coupé le son.
Alors, je vous remercie, Raphaël. Merci. Merci pour votre intervention. C'est un peu compliqué pour nous parce que techniquement, votre voix, elle sort de manière difficile. Et on va essayer d'échanger tout au long de cet événement, tant bien que mal. Et on va essayer. Enfin, moi, j'aimerais bien poser la question à. Elle est où, Jojo? Pour préciser ce qu'est le cercle Frantz Fanon. Est-ce que tu peux venir? Parce que là, nous avons été en relation avec un groupe qui, justement, pense, s'est approprié la pensée de Frantz Fanon et a mis en place un collectif. On peut dire que c'est un collectif, le cercle Frantz Fanon. Est-ce que tu peux préciser, pour ceux et celles qui nous écoutent, que l'intervention de Raphaël... Qui est Raphaël et qui est le cercle? Qu'est-ce que c'est que le cercle Frantz Fanon, pour préciser?
Alors, le Cercle France Fanon, c'est une association qui s'est constituée pour remémorer, pour faire parler de France Fanon. Et je crois que ça a commencé quand, au moment du retour de descendre de Fanon en Algérie. Parce que quand il est mort, il voulait être enterré en Algérie, mais évidemment, c'était pas le moment. Donc on l'avait enterré à la frontière tunisienne, frontière Tunisie-Algérie. Et des années plus tard, il a pu être enterré en Algérie. Alors le nom de la ville, je ne connais pas. Mais... Et donc ce cercle, il a été constitué pour pouvoir renouveler, faire connaître. Parce que le problème, c'est que Fanon, il est moyennement connu aux Antilles parce qu'en fait, il dérange. Comme il dérange en Algérie, voilà, parce que ses idées sur la révolution, sur le colonialisme, tout ça, dérangent une partie des gouvernants surtout. Donc du coup, on n'en parle pas trop. Et le cercle France Fanon est fait justement pour ça. D'ailleurs, cette année, au mois de juillet, ils ont fêté les 100 ans de France Fanon à l'Atrium. À Fort-de-France, il y avait pas mal de monde. C'était une belle après-midi.
Très bien, merci.
Si je peux me permettre, juste deux mots pour rappeler comment était constitué, créé le Cercle France Fanon. Il s'avère que certains connaissent Maître Marcel Manville, qui était un camarade et un frère de Fanon. Et c'est ce dernier qui a défendu aussi les membres de FLN, etc. C'est lui qui, à l'origine, qui est rentré en Martinique à ce moment-là, il a décidé de créer le cercle pour que la pensée de Fanon puisse continuer à être propagée plutôt que d'être divulguée n'importe comment. Bon, on constate aujourd'hui qu'est-ce qui se passe. On n'a qu'à regarder Che Guevara, comment il est traité, comment certains leaders des indépendances ont-ils été traités. Et ça, le cercle Franck Fanon refuse que ce soit aussi dans cette situation, que Fanon puisse se retrouver dans cette situation. Donc moi, je rends hommage à Marcel Manville, parce qu'on en parle très peu, mais c'est quelqu'un qui a été un très grand militant aussi pour défendre, quels que soient les Antillais qui ont été emprisonnés, déportés aussi en France, etc. Donc moi, je pense qu'il faut que l'on puisse réfléchir à cette histoire-là en réinscrivant dans l'histoire de Fanon Marcel Manville aussi en tant qu'avocat et défenseur des membres du FLN.
Oui.
Merci Jean-Marc Aigard.
Pour essayer d'être encore beaucoup plus précis, ce cercle France Fanon, j'ai parlé du premier mémorial en 1982. Il y eut un second mémorial, c'est-à-dire ce sont des rencontres internationales qui ont lieu. Donc il y a eu 82, il y a eu 2011, il y a eu cette année. Et j'allais dire, ce cercle France Fanon, c'est presque un cercle de réflexion, où nous avons à l'intérieur des sociologues, des historiens, tous ceux qui travaillent autour de la pensée de Fanon, et périodiquement, ils viennent rapporter le fruit de leurs travaux et de leurs recherches. Je veux dire que au premier mémorial de Franz Fanon, il y a eu un historien-chercheur japonais. Et lorsque nous étions en décembre 2011, il y avait des gens du Brésil, il y avait des gens du Pérou. Donc c'est un cercle qui réfléchit Fanon d'une manière internationale. Et puis il y a des gens qui ont connu Franz Fanon. Je pense à Alice Cherki qui a travaillé avec lui à l'hôpital de Blida. Je pense à son fils, Olivier Fanon. Tous ces gens-là donc, font partie et communiquent, font des communications, des travaux. Voici la communication qui a eu lieu, ça a donné lieu à un bouquin des actes du colloque de ce second mémorial de 2011.
Merci pour toutes ces précisions. Alors, moi, j'aimerais venir sur le fait que Franz Fanon est encore plus que jamais d'actualité et que sa pensée est un outil pour penser le monde d'aujourd'hui et comment est-ce qu'on peut faire face à cet impérialisme féroce. Et il y a quelques années, avec Radio Galère, lorsque nous avons mis en place un festival qu'on appelait Festival Parole de Galère, on avait mis comme thématique, c'était la thématique décoloniser les esprits, et ça avait fait un tollé. Mais la décolonisation, c'est fini, ça s'est terminé dans les années 60. Et il y avait donc la nouvelle génération et les anciens, les 68ards, on peut dire ça comme ça, réalistes, bien pensants, qui n'imaginaient pas qu'ils portaient en eux pensée coloniale, malgré le fait qu'ils avaient, ils essayaient ou ils pensaient être humains, mais en fait, quand on creusait, on voyait que c'était une grosse gêne chez eux, cette décolonisation des esprits. Tout à l'heure, Saïd Bouamama, tu parlais d'émancipation en trois étapes des personnes infériorisées, mais comment on fait avec ces personnes qui portent en eux l'esprit colonial, l'esprit dominant? Parce que là, on peut aussi parler de vases communicants entre colonisateurs et colonisés, que celui qui fait son travail d'émancipation chez les colonisés, ben, il y a aussi ce travail d'émancipation chez les colonisateurs, même s'ils ne se revendiquent pas être des colons, mais quelque part, ils ont été imprégnés de cet imaginaire. Et j'aimerais vous poser la question aussi à vous autres, hein, comment est-ce qu'on peut essayer de penser la chose-là de ce côté, de ce bord, de ce qu'on appelle les Blancs?
D'abord, il faut croire en ce qu'on dit. C'est-à-dire que moi, j'ai vraiment l'impression que parfois, on a un point de vue et une conviction, mais comme ça vient remettre en cause des éléments tellement importants dans cette société, on hésite. Moi, je pense qu'on avance. Je pense qu'on avance, mais on avance parce que, justement, on a été un certain nombre à poser les questions embêtantes. Fanon est un des auteurs, il le dit dans un texte pour la Révolution africaine, mais comme beaucoup de ses textes, il n'a pas le temps de les développer, que la colonisation fait des dégâts dans les pays colonisés, mais chez les peuples du pays colonisateur. C'est un des rares à avoir compris cette dimension-là. C'est-à-dire que la colonisation, ce n'est pas seulement les destructions là-bas. Pour détruire là-bas, pour dominer là-bas, il faut produire le consentement ici. Il faut que les gens acceptent, ne se révoltent pas et disent pas « mais c'est scandaleux ce qu'on va faire là-bas, pas en mon nom, n'allez pas faire ça en mon nom ». Et donc, les sociétés européennes ne sont pas indemnes de la colonisation. Elles ont été formatées, irriguées de toute une série d'images, de représentations sociales, de modes de pensée, qui aboutissent à l'idée que on a quelque chose à leur apporter à ces sauvages. Bien sûr, si vous êtes de gauche ou de droite, ça ne sera pas les mêmes héritages. Mais si on est matérialiste, et moi je suis matérialiste, et Fanon était matérialiste, c'est-à-dire que nos idées viennent de ce que l'on vit, eh bien vous ne pouvez pas avoir grandi dans une société qui a esclavagisé et colonisé pendant des siècles et considérer que dans votre esprit, dans vos réflexes, dans vos manières de faire, il n'y a aucune trace. Ce serait la même chose qu'un homme qui a grandi dans une société sexiste, qui a été socialisé dans une société sexiste, dise « moi, je suis un super-héros, j'ai aucune trace de cela ». Ça n'est pas possible. Et quand on dit ça, ça veut dire qu'une fois qu'on l'a reconnu, on peut se mettre au travail pour décoloniser. Tant que le débat est refusé, on ne pourra pas décoloniser. Et donc le premier combat, c'est d'imposer ce débat-là. Et on ne va pas l'imposer en faisant des sourires. Il faut l'imposer en faisant ce qu'ont fait les militants dans beaucoup de pays d'Afrique, etc. On veut des réparations. On veut regarder tous les effets. Et c'est en imposant des débats, et je dis bien des débats, parce qu'après on a des arguments. Pour l'instant, les débats sont refusés. Et ça veut dire aussi que il faut saisir toutes les occasions pour saisir cette question-là. Nos rues sont pleines de noms coloniaux. Les manières de penser dans le discours sur l'immigration sont pleines d'héritage colonial. Donc aujourd'hui, il n'y a plus besoin de faire la preuve. On a toute une série de choses qui indiquent cette prégnance coloniale dans l'organisation même de la société française. Je vais prendre juste un exemple que je suis en train de travailler. L'organisation du rapport entre la police et les quartiers populaires. Mais vous pensez que ça vient d'où? Cette idée qu'il faut créer des corps spéciaux pour certaines populations. L'idée qu'il faut une BAC. Pourquoi une BAC? Pourquoi c'est pas la police normale qui fait le contrôle dans ces quartiers? Cette idée-là, c'est une idée coloniale. Le premier corps de police spéciale, c'est pour surveiller les militants indépendantistes à Paris. Ça s'appelait la brigade nord-africaine. Donc, on voit l'idée d'entourer des quartiers pour faire des contrôles. Mais c'est quoi ça? Donc, on voit bien que les institutions ont hérité d'organisations coloniales. La manière de penser la politique de l'immigration hérite de ces dimensions-là. Donc, moi, je pense que la première étape, c'est d'abord d'imposer ce débat-là. Tant qu'on n'aura pas réussi à ce que ce débat-là soit considéré comme légitime, eh bien, on ne pourra pas avancer. Mais ça veut dire aussi que les descendants de colonisés décolonisent leur esprit aussi. C'est-à-dire considèrent qu'ils sont légitimes pour poser toutes les questions qui entravent leur égalité. Et il n'y a pas de limite à ça. Tant qu'il n'y a pas l'égalité complète, on est légitime pour poser toutes les questions qui entravent cette égalité.
Rien ne peut se faire, enfin, pour avancer dans ces questions-là, sans la relation. Alors, par exemple, dans la question des genres, on parle de masculinité toxique quand on nomme les hommes qui veulent imposer leur virilité. On parle de manspread ou man. Alors, j'ai plus les notions là. En gros, à chaque fois qu'on voit des comportements qui dépassent la relation d'égal à égal, eh ben, on les nomme. Et est-ce qu'il y a des termes qu'on pourrait développer par la suite pour parler du comportement colonial ou de l'esprit colonial qui émerge? C'est à voir.
Je vais vous raconter une anecdote.
Allez.
Parce que souvent, les anecdotes permettent de saisir ce qu'on peut expliquer autrement, mais de manière beaucoup plus compliquée. Je suis invité, il y a quelques années, au congrès de la plus ancienne association antiraciste française. J'arrive, je fais mon intervention, il m'avait mis à l'honneur, donc je fais mon intervention, ça se passe très bien, grand applaudissement, et au moment de passer au débat, je vois une dame très très vieille au fond de la salle qui lève la main pour prendre la parole. Et on va l'aider à descendre, et elle prend le micro, elle dit « mais moi je veux pas, j'ai pas de questions, je veux juste embrasser M. Beaumama ». Et elle continue, voir un arabe parler aussi bien français, je peux mourir tranquille. On avait là, à la fois j'étais très respectueux pour toute sa vie de militant, elle a passé toute sa vie à lutter contre le racisme, et en même temps, même elle qui avait passé toute sa vie à lutter contre le racisme, avait ce type de représentation. Eh bien ça, c'est quelque chose de fréquent, si on ne le pose pas, eh bien... Jamais cette dame pourra prendre conscience de ça. C'est ce qu'on lui pose. Comment voulez-vous qu'un homme se rende compte de ses attitudes inconscientes de dominance si les femmes ne lui disent pas?
C'est
sûr. Il n'impose pas le débat. Eh bien, c'est à nous d'imposer ce débat-là.
C'est sûr.